Le vocabulaire et les phrases de l'évangile de Jean sont tellement simples qu'on peut les arranger dans des ordres différents pour éclairer notre esprit sur la profondeur de leur signification. Je mets par exemple trois petites déclarations du début du premier chapitre bout à bout et j'obtiens. La parole était Dieu, nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Il nous a révélé le Père. Ainsi construit, ces déclarations affirment que lorsqu'il était ici-bas, Jésus-Christ était pleinement Dieu et manifesta la grâce et la vérité qui sont les attributs phares du Père céleste. Bien sûr, l'Éternel est bien plus que cela, mais Jean met l'accent sur les deux caractéristiques qui nous concernent le plus en tant qu'être humain, la grâce et la vérité. Le scientifique qui aux États-Unis a conçu la carapace qui protège les fusées et les navettes spatiales de la NASA contre la chaleur lors de leur retour sur Terre est un chrétien. Il a dit que la Trinité a laissé ses empreintes digitales partout dans l'univers parce que celui-ci est construit sur un modèle triade. Par exemple, nos vies sont modelées par le temps, l'espace et la matière. Pouvez-vous penser à une quatrième dimension? Le temps lui-même est composé du passé, présent et futur. L'espace est tridimensionnel avec la longueur, largeur et hauteur. Quant à la matière, tout le monde n'est peut-être pas d'accord, mais il me semble me souvenir du cours de physique qu'elle peut se décomposer en énergie, mouvement et phénomène. Comment le modèle triade de l'univers cadre-t-il avec l'incarnation? Loin dans le temps de l'éternité passée était la parole. Elle entra pendant 33 ans dans le présent et l'espace humain en devenant un homme né dans la petite bourgade de Bethléem. Comme Dieu est esprit, il prit une enveloppe matérielle de chair et d'eau afin de se révéler à nous. Dans le futur glorieux de ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ils connaîtront pleinement Dieu. C'est ce que l'apôtre Saint Paul affirme, je le cite. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. Fin de citation. Les trois versets que j'ai considérés jusqu'à présent sont les pierres de taille et le fondement de tout l'évangile de Jean. Je vais les rappeler en les mettant bout à bout. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Plénitude de grâce et de vérité. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Jean 1:14-18. Je continue le chapitre 1er. Tout a été créé par lui, le Logos. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Verset 3 du premier chapitre. C'est Jésus-Christ qui est le Créateur. Non seulement il était, ou plus exactement il est, avant qu'il ne naisse à Bethléem, mais il créa le vaste univers et tout ce qu'il contient. Tout a été créé par lui. Il est l'agent de la création. La parole est venue sur terre pour révéler le Père. C'est là le rôle du Logos de Jésus-Christ. Mais cette révélation avait déjà commencé lors de la mise en chantier de l'univers telle qu'elle est racontée au début du livre de la Genèse. le but de la création, étant avant tout de déclarer la gloire de Dieu, ce qui est mentionné à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Je continue le chapitre 1 de Jean. « En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. » Verset 4. La lumière et la vie sont des éléments on ne peut plus banals, on n'y fait pas attention. Pourtant, sans eux, nous sommes morts. La vie d'un homme est son plus grand atout. La perdre est chose tragique. Jean affirme que la vie est en Jésus-Christ. Qu'elle soit physique ou spirituelle, elle nous vient de lui. Le Logos, la parole, le Verbe, la raison de Dieu contient la vie en lui-même. La biologie a découvert que le principe de vie est inhérent dans le code génétique de chaque être vivant. C'est la parole émise par le Créateur qui l'a créé et fabriqué. Ce code génétique est déterminé par un alphabet de seulement 4 lettres chimiques et qui compose des mots de 3 lettres, suffisant pour construire tous les êtres vivants dans leur immense diversité. Dans le livre de la Genèse, nous lisons que Dieu dit que la terre produise ceci et cela, et ainsi de suite. C'est parce que le Créateur a émis une parole, une impulsion intelligente de la part de son esprit, que le principe de vie a pris existence et forme. Le code génétique étant l'expression de la raison de Dieu, il s'est saisi des éléments de la terre et des eaux pour en constituer des êtres vivants. Cette vie est partout autour de nous, dans l'eau, dans les bois, dans l'air, de façon visible, mais aussi sous forme de micro-organismes. J'ai lu quelque part que sur notre peau grouillent des milliards de bestioles minuscules. La vie est partout et en abondance, mais nul ne peut l'expliquer. La lumière est l'autre élément tellement ordinaire qu'on ne l'apprécie plus sauf lorsqu'on en est privé. C'est vrai qu'il y a des poissons qui vivent dans l'obscurité la plus complète tout au fond des fosses océaniques. Mais ils sont équipés pour, ce qui n'est pas mon cas. Moi, si j'ai 3 jours de suite de pluie, j'ai le bourdon et je chante le blues. C'est pareil si le ciel est bas, du genre de celui dont parlait Jacques Brel lorsqu'il chantait son pays, plat avec un ciel si bas qu'un canard s'est perdu, un ciel si gris qu'un canard s'est pendu. Je me traînerais par terre si je devais habiter un endroit sans soleil ou en hiver, le jour est à peine un pénombre. Et cela pendant plusieurs mois de suite. Et en plus, il y fait un froid de canard. Dans l'immense espace sidéral, c'est encore pire. Il y fait une nuit d'encre, une obscurité complète à couper au couteau, un noir absolu. C'est drôlement lugubre et ça fait froid dans le dos d'y penser parce que je suis fait pour vivre au rayon du soleil. Dans les textes sacrés, la lumière est souvent utilisée comme emblème pour l'Éternel. D'ailleurs, ce fut sa première création. Les ténèbres, au contraire, servent fréquemment à illustrer la mort, l'ignorance spirituelle, la culpabilité humaine et la séparation d'avec Dieu. Nous vivons dans un univers qui est dans les ténèbres, ce qui veut dire que l'homme demeure dans ses vices et sa culpabilité qui l'empêchent de voir Dieu. La solution, c'est la lumière, et elle se trouve exclusivement en la personne de Jésus-Christ. Je continue le texte. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas captée. Verset 5. Lorsque je vais voir quelqu'un de gravement malade, je commence à parler de différentes choses qui sont d'abord en rapport avec sa vie de patient et puis ensuite de ses occupations normales. Alors tout se passe bien et est très agréable. Nous sommes comme de vieux amis qui se retrouvent après une longue séparation. Mais si la conversation s'oriente sur des réalités d'ordre spirituel, alors le visage de mon interlocuteur s'assombrit. C'est sauf qui peut branle-bas de combat. Il déconnecte et ne comprend plus de quoi je parle. En fait, c'est comme si je discutais avec un mur. Dans le meilleur des cas, il n'a aucune réaction sinon de l'impassibilité, un sourire en coin ou un petit hochement de tête poli. Une telle attitude est pourtant irrationnelle. Considérez un départ en week-end. On fait toutes sortes de préparatifs afin de s'assurer qu'on aura du bon temps. C'est très bien, évidemment. Mais en parallèle, chacun d'entre nous, un jour ou l'autre, va devoir prendre un aller simple pour le plus grand voyage de son existence et qui va le conduire dans l'éternité à tout jamais. Combien y réfléchissent et s'y préparent en mettant leurs affaires avec Dieu en ordre? Combien règlent la dette spirituelle qu'ils ont envers Dieu avant de partir? La plupart des gens rechignent à y penser et préfèrent s'enfoncer les yeux fermés dans le brouillard. Ils me disent « On verra bien. Je tente ma chance. » En fait, c'est le diable qu'ils tentent. Ils sont dans ce que les Écritures appellent les ténèbres. Elles sont toujours spirituelles et souvent morales. C'est ce qui explique pourquoi il y a tant d'apathie, d'indifférence vis-à-vis de la lumière de l'Évangile, qui est pourtant avant tout une très bonne nouvelle. En effet, la foi en Jésus-Christ me permet d'effacer pour toujours, d'un coup d'un seul, l'ardoise que j'ai avec Dieu. Je continue le texte. Un homme parut envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Versets 6 à 9. Jean-Baptiste fut envoyé pour le bénéfice des hommes, afin qu'ils sachent une fois de plus que la vérité se trouve en Jésus, celui qui révèle le Père céleste. Cette démarche était indispensable parce que tout le monde est dans le péché et coupable vis-à-vis de Dieu. Ils sont dans de telles ténèbres que les gens sont incapables de découvrir la lumière par eux-mêmes. Il leur faut quelqu'un pour leur indiquer la direction à prendre vers celui qui est la lumière. Jean-Baptiste fut donc envoyé afin que tous se repentent, c'est-à-dire reconnaissent que leur cœur est noir d'encre. Alors seulement ont-ils la possibilité de venir à Jésus et de placer leur confiance en lui. Ce n'est que sa lumière qui a le pouvoir de dissiper mes ténèbres. Je continue. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Versets 10 à 11. À cause de leur aveuglement, les hommes n'ont pas reconnu leur Créateur lorsqu'il est descendu du ciel pour leur rendre visite. Pire encore, Jésus est venu chez les siens, au sein d'Israël, mais ils l'ont rejeté en bloc. Ses créatures et son peuple n'ont pas voulu de lui. Je continue. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Verset 12. Comme je l'ai dit, Jean utilise « croire » 98 fois dans son évangile. Cependant, ce verbe est toujours suivi d'une préposition. La foi dans les Écritures n'est pas une notion philosophique abstraite, mais une attitude très concrète. Supposez qu'un soir, au clair de lune, vous alliez à un spectacle donné par un funambule. Il est tout là-haut, en équilibre, à marcher sur son câble. Ensuite, il porte son associé sur ses épaules et traverse encore une fois l'espace, toujours sur son fil. Maintenant, il demande « Qui croit que je peux faire de même avec un membre de l'assistance ?» Et tous de répondre en chœur « Oui, on croit que tu en es capable !» Ça, c'est une foi purement intellectuelle, inutile et que les Écritures appellent une foi morte. Supposons maintenant qu'il vous ait vu crier un oui franc et massif et qui vous le demande personnellement de venir monter sur ses épaules. Là, vous êtes au pied du mur. Si vous acceptez, vous avez véritablement foi en ce funambule. C'est pareil avec Jésus-Christ. Presque tout le monde dira que Jésus est le Sauveur et même leur Sauveur, mais ça ne veut rien dire du tout tant que je n'ai pas pris une décision volontaire qui m'engage vis-à-vis de lui. Ce ne sont que ceux qui font une telle démarche qui deviennent enfants de Dieu. En fait, ce que Dieu vous demande est un acte de volonté, une décision. C'est un peu comme lorsque quelqu'un se présente sur votre palier. Vous choisissez alors soit de le faire entrer, soit de le laisser dehors. Vous devez agir pareillement avec Jésus-Christ lorsqu'il se présente à votre porte. Dans l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament, voici ce qu'il est écrit concernant le Christ. Je lis. « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Fin de citation. À vous de choisir. Je continue le texte. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus enfants de Dieu, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Verset 13. On devient enfant de Dieu par la nouvelle naissance. C'est une œuvre de régénération surnaturelle qui vient de Dieu. Aucun agent humain n'y participe. Une personne accueille Jésus et l'accepte par la foi et l'obéissance, mais c'est le travail mystérieux du Saint-Esprit qui en est la cause. Jésus va d'ailleurs expliquer tout cela plus loin à un des chefs des Juifs qui vint le voir de nuit en secret. Je continue notre texte. Jean, son témoin, a proclamé publiquement « Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit « Celui qui vient après moi m'a précédé car il existait déjà avant moi. » Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Versets 15 à 17. Ce qui faisait la grandeur de l'ancienne alliance, c'était le fait que l'Éternel avait donné la loi par l'intermédiaire de Moïse. Aucune autre nation n'a eu ce privilège. Cependant, Jean oppose ici la loi à la grâce et Moïse au Christ. Et c'est avec ces paroles que se termine le prologue de cet évangile, qui débute d'une toute autre manière que les trois autres. C'est au moyen d'une construction très travaillée, faite de plusieurs parallélismes, que Jean nous dévoile les relations éternelles du Père avec le Logos, Fils, qui est présenté comme le Créateur, la vie et la lumière. Cette lumière est venue dans le monde pour y faire resplendir la gloire de Dieu qui résidait dans le Fils incarné. En nous révélant la grâce et la vérité, Jésus nous a comblés des richesses que la loi ne pouvait donner aux Israélites. Rejetés par les siens, certains pourtant ont accueilli Jésus-Christ et ont cru en lui. Leur privilège a alors été de devenir enfants de Dieu. Je continue la suite du chapitre 1er qui va véritablement commencer l'histoire du Christ selon l'apôtre Jean. Je lis. Voici le témoignage de Jean lorsque les autorités juives lui envoyèrent de Jérusalem une délégation de prêtres et de lévites pour lui demander « Qui es-tu ?» Verset 19 du premier chapitre. Tout comme pour Jésus-Christ, Jean ne nous donne aucun détail concernant Jean-Baptiste, son origine, son style de vie, comment il en est venu à baptiser et tout ça. C'est Luc qui nous donnera tous ces renseignements. Donc, la première fois que nous entendons parler de Jean-Baptiste, c'est pour apprendre qu'il a été envoyé pour être un témoin de la lumière, et maintenant il pratique une immersion rituelle destinée à préparer ceux qui le veulent à recevoir le Messie. Son influence était cependant tellement importante que les autorités juives de Jérusalem sont troublées et envoient des représentants pour s'assurer que leur statut ne va pas en souffrir. L'apôtre Jean va utiliser 68 fois l'expression « les Juifs » pour se référer aux autorités religieuses du pays. Les autres évangiles n'emploient ce mot que rarement. Ils parlent plutôt des pharisiens, des sadducéens, des hérodiens, des chefs du peuple, des spécialistes de la loi, les divers clans qui se partageaient le pouvoir en Israël. Mais quand Jean a écrit, ces groupes n'existaient plus parce que, en l'an 70, les Romains avaient rasé Jérusalem et détruit le temple, ce qui avait entraîné la disparition de la structure de la société juive. En conséquence, Jean simplifie les choses pour ses lecteurs et englobe tous les groupes que j'ai mentionnés sous la désignation « les Juifs » et qui est traduit par « les autorités juives ». Ce n'est que de temps en temps qu'il précisera qui est qui. Quoi qu'il en soit, voilà donc que rappliquent les chefs pour demander à Jean-Baptiste qui il était. La venue de ce baptiseur a fait des remous parce qu'il était le précurseur de Jésus-Christ, le Messie, qui venait pour restaurer le royaume de son aïeul David, à condition qu'Israël accepte de se repentir. Et c'est bien là que le bât blesse. C'est dur, très dur de s'humilier devant Jésus. Mais c'est le seul et unique moyen d'entrer dans le royaume des cieux.